Happy Radio, le fil rouge de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Radio. Aujourd'hui, on va parler du Tour de France à quelques semaines de cette magnifique compétition qui débutera le 4 juillet. J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés un homme aux multiples casquettes. Il a été maire de Castillonnès pendant 18 ans, chanteur et conteur d'anecdotes à 16 heures, animateur pour Vélo Magazine et également pour le Tour de France. On y viendra. Speaker également pour la Fédération Française de Cyclisme. Il est avec nous, c'est Pierre Sicot. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que cette présentation est fidèle à toutes vos activités?
Oui, c'est un bon résumé en une phrase d'une vie, quoi, finalement, mais d'une vie de passion.
C'est ça.
Oui, c'est une vie qui a été
rythmée par la passion.
Exactement. Et j'en suis très heureux. J'ai eu beaucoup de chance.
Évidemment, on est là pour parler de vélo. Parlez-nous un petit peu de... Alors déjà, voilà, on parlait de passion. À quand justement remonte cette passion pour le cyclisme?
Ah, c'est très très ancien, parce qu'enfant, j'avais un père qui aimait le vélo.
Déjà.
Et, oui, déjà, donc je le suivais sur les courses régionales, et c'est vrai que très très vite, le virus m'a pris, et puis les Tours de France que je suivais à la télé... À l'époque, en noir et blanc, il n'y avait pas encore toutes les étapes retransmises, mais ces Tours de France homériques entre Anquetil, Poulidor, puis Eddy Merckx par la...
Les plus grands noms.
Pour les plus grands noms, puis quelques-uns que par la suite j'ai eu le plaisir de côtoyer, Bernard Thévenet, Bernard Hinault. Donc tout cela, puis le Tour de France, c'est... Il y a quelque chose de féerique, parce que d'abord...
Fédérateur aussi.
Voilà, c'est un spectacle gratuit, très populaire, ça passe partout, toutes les couches de la population aiment le Tour de France. Ben, c'est quelque chose qui rentre partout, dans toutes les maisons, et donc forcément, cette magie m'a beaucoup touché. Et donc, à un moment donné, j'ai eu la possibilité de, par hasard d'ailleurs, de commenter une course de vélo, puis après plusieurs, en remplaçant quelqu'un qui, ce jour-là, était malade. Et puis, de fil en aiguille, ça a duré 30 ans, de 1978 à 2008.
Oui, justement, vous parlez d'hasard, mais comment ça s'est fait pour rentrer quand même dans ce milieu qui est assez fermé du commentaire sportif?
Je suivais pas mal de courses de vélo, comme je le disais, et puis... J'étais dans un club des environs de Bergerac, qui est Prigorieux à l'époque, mais comme dirigeant. Et un jour, celui qui devait commenter la course n'a pas pu être là à la dernière minute, et on cherchait en vain quelqu'un. Et puis, étant entendu que je suivais les épreuves, m'a dit tu pourrais peut-être le faire. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. Et, oui, pourquoi pas. Et j'ai beaucoup aimé cette première.
Tu es pris au jeu.
Voilà. Et quelques jours après, d'autres dirigeants qui aussi cherchaient un animateur m'ont demandé. Et les choses sont allées comme ça.
Et en fait, de fil en aiguille, vous avez monté...
Mais de fil en aiguille, et puis le hasard de rencontres. Ensuite, sur une épreuve... qui avait un peu plus de stature. J'ai rencontré les gens de Vélo Magazine, oui, qui cherchaient aussi à étoffer leur équipe sur l'étape du Tour et sur des épreuves du Tour de France. Et ils ont fait appel à moi. Et à partir du moment où on est dans cette filière, il est évident que les contrats s'enchaînent avec d'autres.
Aussi,
voilà, le championnat du monde, des choses de cette nature. Et c'est extrêmement intéressant.
J'imagine, qu'est-ce que vous retenez justement de cette expérience-là, en termes d'anecdotes, de souvenirs marquants, j'imagine?
Des souvenirs marquants, déjà, comme je le disais, le bonheur de côtoyer des gens que l'on
Bien
a connus
enfants
et qui étaient des idoles. Je pense à ma première rencontre avec Jacques Anquetil, avec Raymond Poulidor, avec Eddy Merckx, bien sûr, avec Bernard Thévenet, avec Bernard Hinault, avec Jenny Longo, parce qu'il ne faut pas oublier les dames. Et le vélo est un milieu très, 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 comment dirais-je, très convivial, très cordial. Bon, il y a des brouilles comme dans tous les sports. Mais c'est quelque chose de très chaleureux. C'est une grande famille, le vélo. Très, très grande famille.
Justement, ces grandes légendes-là, c'était facile de les approcher, discuter avec eux. Ils étaient abordables.
Oui, très, 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 très abordables. Très abordable, des gens d'une grande simplicité, même Eddy Merckx, pour lequel j'ai un profond respect, grand champion, grand bonhomme, mais d'une infinie gentillesse, très très abordable, vraiment quelqu'un avec lequel j'ai beaucoup aimé échanger quand l'occasion m'a été donnée.
C'est peut-être ça aussi la marque des grands, la simplicité.
C'est la marque des grands, et on le rencontre dans tous les domaines. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont tellement travaillé parce qu'on dit c'est le talent ou on leur invente tout un tas de choses, mais non, ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé, beaucoup d'entraînement, des heures. Un grand courage parce qu'il en faut, de l'abnégation, pas avoir peur de se faire mal, d'aller au bout de soi-même.
Très haut niveau. Ouais.
Voilà. Et donc, partant de là, ce sont des gens qui partagent beaucoup. Qui vont partager beaucoup.
Donc oui, ces souvenirs, c'est vraiment les rencontres avec, avec des idoles, et puis pour voir faire vivre ce sport-là aussi à travers le micro.
Oui, c'est important parce qu'avec eux, ils nous racontaient des anecdotes, des histoires. Alors, il n'y a pas les troisièmes mi-temps comme au rugby, mais les soirs d'étape, il y a des moments comme ça très, très, très conviviaux, très chaleureux, où on apprend des tas d'histoires sur les épreuves précédentes, sur les tours précédents. Il y a les suiveurs aussi. Parce qu'une caravane, il y a tout un tas de gens qui sont là, qui ont vécu les choses à leur manière, qui racontent aussi. Et tout ça fait quelque chose qui laisse de merveilleux souvenirs. Oui.
Et pour continuer, si vous deviez surtout retenir un de vos plus beaux moments de cette première carrière-là.
Il y en a eu beaucoup, mais c'est surtout la chance de commenter de grands événements comme le championnat du monde sur piste que j'ai eu la chance de faire deux fois, des manches de coupe du monde aussi. C'est sûr que avec les télévisions du monde entier, avec des tribunes pleines quand c'est dans un vélodrome. C'est vrai que c'est extrêmement émouvant, ou une arrivée d'étape du Tour de France, quand je le faisais pour Vélo Magazine, où vous avez des dizaines de milliers de spectateurs dans un lieu mythique comme l'Alpe d'Huez, ou les Deux Alpes, ou Pau, ou des villes comme ça. Il est évident que c'est un rêve éveillé.
Et comment on se prépare justement à ce genre de gros événements là, quand on le disait, vous l'avez vu à la télé, il y a un peu de pression forcément, il y a beaucoup de médias qui sont là, enfin c'est un événement.
C'était un gros travail, c'est-à-dire que sur un championnat du monde ou sur un championnat de France ou une grande épreuve, c'est beaucoup de travail en amont, en fonction du rôle qui nous est attribué quand il y a une équipe de commentateurs. C'est bien entendu les palmarès des coureurs, mais c'est aussi la ville qui va nous accueillir avec son histoire, avec les personnalités qui la composent, avec le vécu, avec les anciens coureurs qui sont là. Il y a tout un travail, et à l'époque, quand j'ai débuté en 78, alors maintenant ça fait un peu ancien combattant, mais il n'y avait pas d'ordinateur, donc tout se faisait à la main. Je me rappelle des classeurs entiers avec des fiches, donc il fallait tout écrire. Aller tout chercher, écrire ou téléphoner à l'office de tourisme de la ville qui nous accueillait pour avoir, qui vous envoyait des plaquettes.
Et oui, des informations aussi sur la ville qui
exactement. Alors après, l'informatique est arrivée, donc là, c'était beaucoup plus facile. Le temps de préparation était beaucoup plus réduit. Puis après, il y a eu l'époque où on avait les ordinateurs sur la ligne d'arrivée. Donc là, on pouvait en direct chercher l'info qui était manquante le moment venu.
Beaucoup d'investigations finalement.
Oui. C'est un travail comme dans tout, comme à la radio, une émission se prépare, un match quel qu'il soit se prépare, une entreprise ça se prépare. Là, c'est un travail. Au niveau où, très modestement, j'étais arrivé, c'était quelque chose de très rigoureux, oui.
Parlons maintenant d'une anecdote de création qui est pas forcément toujours connue, même par les amoureux de cyclisme. Je parle de la création du cycliste Théodore Joyeux, évidemment. Donc lui qui avait fait les gloires du cyclisme français au 19e siècle, ça commence à remonter. Donc il s'était lancé, vous allez apporter des précisions, bien évidemment, le 11 mai 1895 dans ce réel premier Tour de France. Et ce qui vous relie à ça, c'est évidemment qu'il était coiffeur à Castillonnès au début. Donc comment ça s'est fait? Allez-y.
Ouais, l'histoire, donc en 1895, Théodore Joyeux, qui est un coureur cycliste de talent, qui a déjà un beau palmarès, et qui est spécialisé dans les grandes randonnées, les grandes épreuves. Distance, il faut dire qu'à l'époque, voilà, les grandes distances, il n'y avait pas des petites distances. À l'époque, c'était des grandes, Paris-Brest et retour. Donc, ça prenait quelquefois 2 jours. Des choses absolument terribles. Et donc, ce Joyeux, qui était un coureur de fond dans toute l'acceptation du terme, va signer pour un fabricant de cycles parisien qui s'appelle Métropole, et ils essaient de savoir un petit peu comment on va pouvoir mettre en valeur la marque, et il se lance, il se dit bah tiens, pourquoi pas un Tour de France, ça n'a jamais été fait. Donc il calcule sur 19 étapes, et là ils vont épouser, mais alors littéralement, complètement le.
Oui, on parle de 5500 km, ouais, 19 jours, une expédition presque.
Ah oui, tout à fait. Il n'y avait pas les moyens de l'époque, il n'y avait pas les routes.
Les vélos surtout.
Il n'y avait pas les vélos, des jantes en bois.
Aussi perfectionnées.
Très, très lourds. Il n'y avait pas des maillots.
Il n'y avait pas de carbone.
Il y avait beaucoup de choses qu'il n'y a pas maintenant. Mmh. Pas d'assistance ou alors quelque chose de très, 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 très modeste. Et donc. Il va se lancer dans l'aventure. Il ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il y arrive. Alors, après, on chipote un peu en disant qu'il n'a peut-être pas fait tout à fait 5000 km, mais en 19 jours, il va boucler le Tour de France à quelque chose.
Dans les grandes lignes.
C'est ça. Dans les grandes lignes, il le fait. Donc, on est en 1895. L'exploit, à l'époque, fait la une de quelques journaux de l'époque. Et. Il y a Henri Desgranges, qui est le patron du journal Loto,
ouais.
Voilà, qui enregistre cette affaire et qui demande à rencontrer Théodore Joyeux, puis qui lui explique comment les choses se sont passées. Et Henri Desgranges, chemin faisant, va en 1903 créer le Tour de France. Et il est prouvé, c'est écrit dans les plus grands ouvrages bien, bien renseignés, que c'est sur une idée de Théodore Joyeux qu'Henri Desgranges va créer le Tour de France. Donc,
oui, qui a reconnu vraiment que l'histoire s'est faite comme ça, ensuite que
c'est ça.
L'idée vraiment a été inspirée de Théodore
Joyeux.
Oui,
tout à fait. Et quand il y a eu le centenaire du Tour de France, en 2003 à l'époque, je n'étais pas maire de Castillonnas, mais le maire de l'époque qui avait... entendu parler de cette affaire, qui avait été ressortie par un passionné de sport qui s'appelait Raymond Miquel. Raymond Miquel qui était avant tout un footballeur, mais qui avait été aussi judoka, enfin qui aimait tous les sports. Il retrouve cette affaire dans des archives, en parle au maire de l'époque, et puis ça va aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont écrire à la Fédération Française de Cyclisme, puis ils vont écrire à la direction du Tour en disant « Est-ce que vous connaissez cette affaire ?» Très très peu de gens sont au courant.
Et pourquoi d'ailleurs cette affaire avait été un petit peu... Enfin, l'anecdote était occultée. J'avais lu qu'il y avait forcément l'affaire Dreyfus qui pouvait avoir un écho.
Il est évident qu'à l'époque, l'affaire Dreyfus a monopolisé beaucoup
de médias.
Donc, on était partis là-dedans. Quand le premier Tour de France démarre en 1903, on est loin de l'euphorie que nous avons aujourd'hui. Ça fait un entrefilet dans les journaux de l'époque, mais ça ne va pas plus loin.
Ça restait du sport. Donc,
ça restait du sport. Bon, le vélo, on ne voyait pas tellement l'intérêt d'aller faire le Tour de France. Donc, l'affaire va rester comme ça, aux oubliettes. Puis, à un moment donné, on se dit, mais quand même, ce type qui fait le Tour de France en 19 jours, ça mérite peut-être...
D'en parler.
Donc, c'est ce qui va être fait à partir de 2003, où certains journalistes très connus à l'époque vont s'en apparaître. La télévision aussi, et au départ du Tour de 2003, eh bien, Théodore Joyeux va retrouver la place qu'il mérite, et Castillonnaise va inaugurer une place au nom de Théodore Joyeux. Alors, pas n'importe laquelle, parce qu'à cet endroit-là, 100 ans plus tôt, il y avait un vélodrome, où on suppose il allait également s'entraîner. Alors le vélodrome n'existe plus, malheureusement, mais maintenant, il y a la place... Théodore Joyeux, et de temps en temps, quand le Tour passe dans les environs, eh bien on reparle de ce champion qui a quand même été, pendant 10 ans, qui a eu une belle carrière de coureur cycliste.
Oui, un écho assez énorme pour le cyclisme français, qui est pionnier de beaucoup de choses.
Oui, ah, mais tout à fait. Ben la France est un des pays, puisque le Tour de France est le premier à être créé, viendront ensuite le Tour d'Italie, puis bien après le Tour d'Espagne, qui reste les trois plus grands tours majeurs.
Mais le Tour de France reste qu'une certaine aura, une...
Puis même en termes d'organisation. Alors, il est vrai que maintenant, les Italiens ont fait énormément d'efforts et que maintenant, le Giro est quand même un très, très haut niveau, tant sur l'organisation que du côté populaire. Il y a un monde fou sur les routes du Giro. La Vuelta espagnole, c'est la même chose. On a soigné le professionnalisme jusqu'au bout et c'est bien pour ce sport qui le mérite.
Comme vous l'avez dit, bien sûr, un sport qui mérite qu'on le regarde avec une popularité qui accroît, si on peut dire ça. Vous, d'un point de vue plus personnel, vous avez un avis sur le Tour de France actuel, en tout cas son format, comment il a évolué au fil des années?
Mais je crois qu'il est il est à l'image de son époque. Oui. Tout s'est vraiment très professionnalisé, y compris l'animation que je regarde avec un regard attendri. Mmh. Mais je me dis que c'est comme ça. À mon époque, alors ça fait encore une fois très ancien combattant, mais tout se faisait en français sur les lignes. Maintenant, il est vrai que comme la plupart des champions viennent de l'extérieur et que le cyclisme n'est plus que une affaire européenne ou américaine, maintenant c'est véritablement mondial. Donc on a des présentations polyglottes sur la ligne de départ et puis idem à l'arrivée. Pourquoi pas? Le seul regret, c'est bien entendu que depuis Bernard Hinault, on n'est pas de champion qui gagne le tour. Mais bon, ceci dit, il y a de belles passes d'armes. Ça reste un événement. Ce qu'il y a de formidable, c'est d'avoir gardé ce côté populaire avec la caravane, avec c'est encore très très abordable. Il m'arrive c'est il y a deux ans je crois où le tour était arrivé à Villeneuve-sur-Lot, j'étais invité sur le site, mais j'ai retrouvé toujours cette ambiance
presque de village en fait. Oui. Où toutes les communes aux alentours se rassemblent.
Tout à fait, tout le monde est là, c'est la grande fête, c'est toujours très très agréable et très chaleureux.
Vous allez être devant votre poste de télé
Oui, bien entendu. Je pense que je rendrai une visite à mes camarades du Tour, peut-être la veille, parce que je pense que le soir de l'étape de Bergerac, ils risquent d'avoir à repartir, certains, du côté du Lot ou de la Corrèze. Mais oui, je crois que pour suivre cette étape, qui va être absolument magnifique par Périgueux et Sarlat, rien ne vaut les images de France Télévisions.
Et vous avez des pronostics pour cette édition? C'est qu'on a un Français là qui est en train de bien performer, Paul Sexas.
Oui.
Est-ce que vous avez des pronostics?
Je crois que ça va être un tour très 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 ouvert avec tous les anciens vainqueurs des cinq dernières années qui vont être là. Paul Sexas, mais dans les équipes françaises, là j'ai vu, y compris sur le Dauphiné, ex-Dauphiné, qui est le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, que dans les équipes on a quelques jeunes Français là maintenant qui pointent le bout du nez. Donc c'est très 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 intéressant. Qu'on a des coureurs du Mexique, qu'on a des coureurs d'Amérique du Sud qui font parler d'eux de manière assez intéressante. Donc je pense que ça va être un tour très ouvert, d'autant qu'on a des étapes qui vont être rapides, extrêmement nerveuses. Donc je pense que c'est un tour qui va mériter beaucoup, beaucoup d'attention, parce que certains n'ont pas fait le Tour d'Italie pour être sur le Tour de France. Ils ne feront pas le Tour d'Espagne pour être sur le Tour de France. Donc je crois qu'on devrait avoir une bagarre magnifique, en tout cas on l'espère.
Une chouette compétition sportive en France.
En France.
Merci Pierre Sicot pour ces anecdotes, pour avoir parlé de cette belle compétition. Merci d'avoir été à nos micros.
À bientôt, j'espère.
À bientôt.
Pour d'autres aventures.
Merci d'avoir écouté cette émission, toujours sur Happy Radio. On le rappelle, on couvrira évidemment cette étape du Tour de France à Bergerac. On fera un petit peu de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec notamment Corentin et Ronan. Merci.